Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Leorech Yamim Tovim Veshanim Ne'aimim. Nous poursuivons notre étude du Sidour. Donc nous sommes dans le Kaddish et nous allons continuer le commentaire et l'explication du Kaddish. Alors nous devons savoir que le Kaddish est dit en araméen. Il n'est pas dit en hébreu. Alors le Zohar explique la raison pour laquelle le Kaddish, bien qu'il soit dit en araméen, est dit uniquement quand il y a 10 personnes. Il le dit, Tahazé, il dit, viens voir. Aïkdoucha, la puissance de la sainteté du Kaddish, ne ressemble à aucune autre des autres Kedushot. De quelle s'agit-il? Les Kedusha, quand on dit la Kedusha de Nakdisha Venaharitzar, quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. On dit 3 fois la Kedusha, une fois dans la Hamida, et une fois dans le Yotzer, et une fois dans le Valetzion. Mais ces Kedushot-là ne ressemblent en rien. Ces 3 Kedushot-là ne ressemblent en rien à celles du Kaddish. Elles n'ont pas la puissance de se répandre dans tous les mondes et de briser les forces extérieure de la klipa, de la tum'a. Mais cette kedusha du kaddish monte et s'amplifie dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas et aux 4 points cardinaux. Elle brise les anneaux de fer et les fermoirs qui font écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Les forces de la klipa qui nous enferment pour que la gloire d'Akadosh Baruch Hu se propage et se diffuse dans tous les mondes. Nous la récitons, cette louange, dans le langage des forces elles-mêmes de la Tum'a, qui est l'araméen. On se doit d'y répondre avec force. Quand on répond Amen, Yehé, Shemé, Rabba, Mevarach, pour répondre avec force, pour détruire toutes ces forces négatives, toutes les forces de nuisance qui nous enferment et que on rend à Akadosh Baruch Hu son monde. Ça, c'est le Zohar dans Sefer Shemot, c'est-à-dire livre 2 du Zohar à la page 129b. Chacun de nous, en répondant au Kaddish avec force, détruit son propre penchant du mal, son propre Yetzerara, et agit de même pour la globalité des mondes. C'est pas chute. Nous avons un principe que pour réparer le monde, il faut se réparer soi-même. L'homme étant un microcosme, alors si on veut apporter la vérité au monde, si on veut apporter la réparation à la globalité dans l'immensité du monde, c'est impossible d'aller faire aux autres sur les autres. Il n'y a pas un concept d'aller convertir les autres ou bien apporter la vérité aux autres. Il y a un concept de travailler sur soi, de se réparer soi-même. Si on se répare soi-même, alors celui qui arrive à se réparer, il a réparé le monde. Le monde, les autres, on se rend bénéficiaires, seront influencés par la sainteté qui vient de résider à travers son travail personnel. Quand lui, il amène la kedusha sur lui-même, ça rejaillit sur l'ensemble de la globalité du monde. C'est pour cette raison, encore une fois, que le Kaddish, il va être dit devant, il faut 10 personnes, un minyan, c'est une globalité, c'est kol ha'olam, c'est un minyan. Toute la nation juive, elle est dans ce minyan-là. Alors, nous devons comprendre maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Targum, la langue araméenne, ce qu'on appelle le Targum. Alors, la traduction, Targum, ça veut dire traduction. Alors, de nombreux livres ont été transmis dans cette langue. Alors, le Gemara, le Talmud est écrit en araméen. Le Zohar lui-même est écrit en araméen. Le livre de Daniel, à partir du 3e chapitre, est tout en araméen. Les traductions des textes, en araméen. Rabbi Yonatan Ben Oziel, il a traduit les Tanakh, le Nar. Et Ankelos, il a traduit la Torah. C'est une transmission qu'ils ont reçue de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua. N'est-ce pas? Et Rabbi Nathan Ben Oziel, il a reçu de Haggai, Zachariah et Malachi, des prophètes. Donc, c'est très important le Targum. Qu'est-ce que ça signifie le Targum? Alors, Rabbeinu Ha'ari Alav Hashalom, il explique le concept de la Lashon HaKodesh et le concept de Targum. Alors, qu'est-ce que c'est la Lashon HaKodesh, la langue sainte? L'hébreu, dans laquelle est transmise le texte de la Torah. Alors, il dit, ça représente la face. C'est panim, la face de la sainteté. Alors que le Targum, c'est le ahor, c'est le dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parfois, la lumière est tellement puissante qu'il est nécessaire de diriger le faisceau de lumière vers ailleurs, vers le dos, pour être un peu éclairé. Parce que si on le dirige vers le visage directement, c'est trop puissant, on verra rien. Alors, on le met dans le dos. Le dos, ça veut dire que c'est l'atténuation des lumières. Donc, les lumières, elles sont atténuées, de sorte que nous puissions les appréhender, les recevoir. Le Gemara demande, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué, Vayetzer, l'homme, Vayetzer, Adam est à Adam, Vayetzer, Elohim est à Adam, l'Éternel a façonné l'homme. Alors le mot Vayetzer, il a deux yod. Il y a marqué deux yod dans ce mot-là. Alors Rabbi Ermia ben Elazar, il dit, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec deux faces. Une masculine et l'autre féminine, et qui étaient liées dos à dos. L'une d'elles fut plus tard séparée afin de former Hava, la femme. Comme il est dit dans le Tehilim, Ahor vake d'em tzartani, de l'arrière et de l'avant, tu m'as façonné. Donc il y avait une face arrière qui est la partie féminine, et la face avant, la partie masculine. Ils étaient collés, ils étaient créés ensemble. Le double, ça c'est le double yod. Maintenant, le double yod, il fait allusion aussi à cette double formation. Rabbi Nachman Bar Hazan, il a dit, il est écrit, et Hachem a façonné l'homme, le même pasouk. Il dit, Vayetzer Hachem, Elohim et Adam. Le mot façonné est écrit là aussi avec deux yod. Alors, le redoublement du yod est utilisé pour faire allusion au penchant du bien et au penchant du mal. Vayetzer, allusion au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. On remarque que la Gemara déduit du même mot la création de l'homme et de la femme dos à dos et celle du penchant du bien et le penchant du mal. La face symbolise la bonté, alors que c'est la face panim, c'est un pluriel. Et le dos, il est au singulier, ahor. Il symbolise les rigueurs. Les rigueurs, elles sont limitées. Alors on va utiliser un singulier. On va pas dire ahoraim. On va dire ahor. Et panim et ahor. Panim, c'est toutes les énergies positives et sont dans multiples. Alors que les flux négatifs de rigueur, ils doivent être limités. De ces rigueurs qui viennent du dos, alors vont s'alimenter les forces négatives. Les forces de la klipa, ils vont s'alimenter des forces négatives. Elles ne doivent pas se développer plus qu'il ne faut. Elles doivent uniquement exister pour que l'homme puisse les dominer et les transformer en bien. L'attribut de rigueur, c'est Elohim. C'est un pluriel. Là aussi, c'est un pluriel. Celui qui détient les pouvoirs. Les forces du mal et les forces croyantes sont appelées Elohim Aherim, car elles tirent leur existence des rigueurs. Rabbeinu Ha'ari, il dit dans Shara Kavanot à la page 91, il dit que Adam et Hava avaient été créés face à face. S'ils avaient été créés face à face, leur dos aurait été accessible aux forces négatives. Celles-ci auraient pu alors se développer plus qu'il ne faut. Afin que les forces n'aient pas la possibilité de saisir les flux de Kdusha, alors ils ont été créés dos à dos. Donc ils laissent aucune place. Il n'y a pas de place pour rentrer les impuretés. Le verset dit, il a fait une torpeur, il a fait endormir l'homme. Le mot torpeur, il a fait endormir tardema, vayapel, hachem, elohim, tardema la adam. Tardema, c'est dormir. C'est la torpeur, c'est le somnolence. C'est uniquement quand l'homme s'est endormi que Dieu les a séparés, l'homme et la femme. Le sommeil est la conséquence du retour des éléments supérieurs de l'âme vers leur source. Pourquoi on dort? On nous reprend notre neshama. Tous les éléments qui constituent la neshama, les énergies vitales, on nous les récupère. Et il reste quoi? Il reste un minimum. Donc l'homme, il dort. Il ne reste qu'une partie du nefesh qui se concentre dans le cœur. Le mot torpeur a la même valeur numérique que le mot targoum. Tardema, c'est la même valeur numérique que targoum. La vision prophétique est souvent appelée dans les textes mahazé, la vision hazon, qui est un mot araméen, car la vision prophétique n'est perçue que dans un état de somnolence ou dans le rêve. La vision doit être interprétée, elle n'est pas claire. Il faut la comprendre, comme l'échelle de Yaakov. C'est quoi l'échelle? On ne sait pas, il a vu une échelle, c'est quoi le pshat? Ça veut dire quoi? Irmiaou, il a vu un bâton d'amandier, qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Donc la vision prophétique nécessite une compréhension. Donc il faut absolument traduire le sens de la vision. Donc ça, c'est ça la tardema, c'est ça cette traduction là. Nous allons voir qu'il faut la vision doit être traduite. La prophétie de Moshe à la Bachalom est différente des autres, comme dit le verset, face à face. C'est-à-dire sans, avec clarté et sans énigme, sans avoir à comprendre, c'était clair. Moshe, il est conscient, il tampon en sommeil, il est conscient, comme un homme parle à son prochain. Le peuple d'Israël lui-même a atteint les degrés de prophétie les plus hauts lors du don de la Torah. Comme il est dit, panim el panim diber Hashem et machem, face à face, à cause de pourquoi parler avec vous, sur la montagne. C'est alors que la prophétie de Moshe fut établie comme une vérité absolue. Parce qu'il a dit, Hashem, il a dit, atem reitem, ki min hashamayim dibarti machem. Et il dit, voilà, vous avez vu que moi je vous ai parlé du ciel. Me voici, alors il dit, je vous redis à Moshe, je vais parler avec toi à travers la nuée. Et le peuple entendra quand je te parlerai. Et ils auront, ils croiront en la Torah et en toi toujours, pour l'éternité, parce qu'ils étaient conscients. Donc le fait d'être conscient de la réalité, c'est quand Hachem il parle à la face à face. C'est ça le sens de parler face à face. Le Rambam dit que Am Israël n'a eu la foi parfaite en Moshe, non pas grâce aux prodiges. Il dit, c'est pas parce que Moshe il a fait des miracles qu'on va croire en lui. Il dit, le Rambam, il dit un principe fondamental qu'il est bon de rappeler, que tout celui qui croit parce qu'il y a des prodiges, il a une croyance fragile. Il est d'ailleurs possible que tous ces phénomènes miraculeux soient réalisés par des moyens occultes de Touma. Même à la vue d'un miracle, on peut être sceptique et perplexe. Dans toute chose, le doute peut s'infiltrer. Mais là, quand Hachem parle, la vérité est absolue. Ailleurs, le Rambam dit, après avoir énuméré les nombreuses qualités que doit avoir le prétendant à la prophétie, celui qui s'entraîne à avoir la prophétie, le Rambam dit, quand on l'envoie prophétiser, on lui donne la possibilité d'accomplir un signe ou un prodige, afin que le peuple sache que c'est Hachem qui l'a envoyé. S'il se réalise les prodiges, alors c'est une mitzvah de l'écouter, ce prophète-là, bien qu'il soit possible de faire des prodiges sans être prophète. À ce sujet, il est dit, Anistarod Hachem Elokeinu, les secrets, tout ce qui est voilé, c'est pour Dieu, mais nous allons nous comporter selon la réalité. Le prodige est nécessaire pour asseoir l'autorité du prophète, pour que les hommes aient foi en lui. Mais le prophète reste sous surveillance, une surveillance constante, on doit être vigilant. Attention, le prophète, il ne va pas déraper, il ne va pas dire une bêtise. Il ne doit pas annuler une seule mitzvah de la Torah, même une demi-lettre, kutso shel yud. Au moindre écart, il sera condamné à mort. La fonction du prophète est d'enseigner la Torah et de renforcer l'accomplissement des mitzvot. Il y a donc deux éléments essentiels dans la prophétie. D'une part, le message lui-même, l'enseignement, la parole de Dieu qu'il doit transmettre. Et d'autre part, le signe, le miracle, le prodige qu'il doit accomplir pour valider ses paroles. Ces deux aspects correspondent aux deux facettes de la Torah. La face avant, le visage, qui est le langage saint, c'est panim el panim, l'hébreu, le lachon à kodesh. et l'arrière, et le dos, qui est la langue araméenne, la traduction. Moshe demande à Hachem, fais-moi voir ta gloire. Et puis là, il lui demanda, fais-moi connaître tes voix. Arinina et kevodecha. Le Rambam m'explique qu'il demande à connaître d'une part les attributs qui déterminent les actions et d'autre part la véritable essence de Dieu. Hachem lui répond, tu ne peux pas voir ma face. Ça, tu peux pas voir. Tu ne me verras que par derrière. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La Gemara dit, il lui montre le nœud de Tfilim. C'est quoi le nœud de Tfilim? La coque où il y a les parachutes, il lui montre pas. Les maîtres expliquent que le nœud symbolise l'unité des différents canaux qui traversent les mondes pour accomplir la volonté du Créateur. Alors que la coque qui est devant les Tfilim eux-mêmes, les Batim des Tfilim, c'est la pensée première dans sa pureté parfaite. C'est de là d'où émane le monde physique et matériel. Bien qu'il soit dit, tu ne peux pas voir ma face, il est dit, Vekarati Beshem, je prononcerai le nom devant toi. C'est-à-dire, il va lui traduire les 13 attributs de miséricorde et tout l'assemblement des 13 attributs de miséricorde, c'est ça le Shem Havaya, c'est ça le nom de l'Éternel. Ce nom permet, chaque individu a un nom. Ce nom permet de ne pas le confondre avec les autres personnes. Je dis, celui-là il s'appelle Yaakov. Mais c'est parce que je connais son nom que je connais Yaakov. Je sais que celui-là il s'appelle Yaakov. Et l'autre, il s'appelle Yitzhak. Donc, je peux ne pas les confondre. C'est le sens de connaître le nom. Pour connaître la personne, il faut savoir qu'est-ce qu'il est. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quelle est sa personnalité, quelles sont ses aspirations, etc. Il faut le fréquenter. C'est pas parce que tu connais le nom que tu connais la personne. Le nom est l'expression du dos. Alors que l'intériorité de la personne se traduit par son visage. C'est sa face. Connaître les gens de manière superficielle, c'est les voir de dos. Alors que les connaître vraiment, c'est les connaître de face. La face et le visage dévoilent l'intériorité, les détails de la nature humaine et leur complexité. Et sa personnalité complexe de la personne. Le langage de la Torah, la Shona Kodesh, c'est l'intériorité de cette Torah. Le Hassid Lutza, Torah Alav Shalom, il dit, la Torah est une lumière, une vraie lumière, et non pas une science. Ce terme n'est pas dit au sens figuré quand il dit lumière ou allégorique. Chaque mot, chaque lettre qui compose la Torah sont des braises qui contiennent la lumière. Quand on souffle sur les braises, alors elles s'embrasent et s'enflamment. Tous ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah dévoilent cet embrasement. Elle donne alors son illumination. Comme cette flamme qui a différentes couleurs, qui symbolise les 70 facettes de la Torah. Nos maîtres ont comparé la Torah à un verger de noyer. Comme dit le Passouk dans les Cantiques des Cantiques, il dit « El ginat egoz yarati ». Le mot verger « ginat » est l'acronyme « gemataria notarikon » et « temura ». C'est-à-dire le mot « ginat » qui s'écrit « gimel nun taf », chaque lettre elle a un mot, c'est un mot. Et pas, alors ça c'est le sens. Gematara c'est la valeur numérique. Notarikon c'est le permutation des lettres. Et Temura c'est l'acronyme. Notarikon c'est l'acronyme. Et Temura c'est la permutation des lettres. Toute la profondeur de ces sciences se trouve uniquement dans la version originelle du texte. En hébreu, en langue sainte. Mais dès que l'on passe à la traduction, il ne reste que le sens général du texte. Tous les secrets, ils sont inaccessibles. Après la faute, la première femme, elle se justifie en disant, le serpent, il m'a entraîné à manger. Il m'a incité à manger. Le mot entraîné, incité, il est dit chiani. Ce mot-là, il est formé de deux mots. Yesh, ani. La lettre préfixe, hé, elle est en plus. Yesh, ani, ça veut dire que, le dalet, si je prends yesh et je mets un dalet dedans, alors ça fait shakai, shin dalet yod. Si je prends ani et je mets un dalet, alors ça fait alef dalet non yod, c'est le nom de Dieu, Adonut. Donc je reforme. Donc lui, il a fauté, il a fait tomber les dalets. Les dalets, ils sont tombés, ils ont formé un même. C'est l'enfermement de l'Égypte. Alors il dit, Quand en replaçant le dalet, notre travail, c'est de replacer le dalet à l'intérieur. Le dalet, il est tombé, yesh, ani, donc c'est la faute, c'est quoi? C'est moi, moi et je, yesh, il y a moi, il n'y a que moi. Donc l'homme, quand il faute, il s'affirme, il chasse Dieu. Il n'y a que moi, c'est l'orgueil, la suffisance. Quand je veux réparer ça, je vais mettre le dalet à l'intérieur. Donc je deviens un dal. Le dalet, c'est le dal, c'est le celui qui se réduit. Dès que toi, tu te réduis, tu fais la place à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Les deux dalets, ils ont formé un même. C'est ça le sens du Kaddish. Ici, nous avons le sens du Kaddish. Éliminer la sitracha, la tum'a. C'est quoi la tum'a? C'est les forces de l'égoïsme, les forces de la suffisance. C'est s'affirmer. C'est moi qui compte et pas Dieu. Je prends la place de Dieu. Alors le monde, Dieu, il s'en va. Et qu'est-ce qui reste? Il reste Yesh Ani. Dire, c'est ça la force de la Touma. Tu dois refaire, rendre la place à Akadosh Baruch Hu. Nous allons voir que dans la structure du Kaddish, tout le système du Kaddish, c'est de proclamer que il y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu. Toute la réalité de ce monde n'est que la présence de Dieu. Et c'est en cela que la structure du Kaddish produit l'élévation des mondes. C'est ça le sens d'être mekadesh, sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sanctifié? C'est prendre de la matière et le sortir de la matière. Se sortir, quand on dit Dieu est à Kadosh, c'est-à-dire tu es en dehors de la matérialité. Ça veut dire, quand je vois la matérialité de ce monde, je ne dois pas, comme on l'a dit précédemment, on ne doit pas voir la matérialité, on doit voir que ce sont une enveloppe qui contient les énergies vitales, les énergies, les flux perpétuels et continuels qui viennent de Dieu lui-même. Et c'est ça le sens du Kaddish. Nous devons comprendre cela. Et c'est ça le sens de faire le Kaddish pour élever le monde, produire l'élévation. Et c'est pour cette raison, nous disent Rabotez-nous, que celui qui est en deuil, il va dire Kaddish. Pour élever, de la même manière que le Kaddish, il produit l'élévation, comme nous avons dit. Au début, on fait la prière, on est dans les korbanot, le monde de l'action. Alors après, on va dire Kaddish pour monter au niveau du monde de l'émotionnel, psuké des imra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai pris l'action et je l'ai emboîté au niveau supérieur, et monté d'un étage, grâce au Kaddish, ça le sens. La même chose, grâce à cela, je produis que l'âme du défunt, elle s'élève, elle se détache. Pendant une année, quand quelqu'un il est lifta, alors il est jugé. On ne sait pas ce qui se passe exactement, mais c'est le jugement, il est dur. Il risque d'avoir est attaché dans des endroits qui sont pas très très bons. Donc en disant Kaddish, on l'élève. Comme le Kaddish, il produit cette élévation là. La Gemara, alors il y a à savoir, pour ceux qui sont en deuil, la Gemara, elle dit que le sens du Kaddish pour ceux qui sont en deuil. Alors il dit, on connaît l'histoire de... Cette histoire-là, elle est rapportée dans plusieurs textes. Il y en a qui l'attribue à Rabbi Akiva et à d'autres. C'est que il a vu Rabbi Akiva, si on dit que c'est Rabbi Akiva, il a vu un enfant... Un type qui ramassait des bois, tout noir, il ramassait des bois. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ramasse des bois. Qui es-tu? Il dit, moi, je suis pas de ce monde, je suis dans notre monde. On m'envoie ici pour ramasser les bois, pour me brûler. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait que des avérotes, et j'ai pas... Alors, il a dit, t'as pas laissé un enfant sur terre? Il dit, oui, un enfant, mais je l'ai même pas fait la mila. Il sait pas lire et écrire, c'est rien. Il dit, où il habite? Il va le chercher. Donc, le père qui va, il va, et il s'occupe de cet enfant-là. Et il va lui faire la mila, il va le rapprocher, il va lui apprendre à lire, et il va lui apprendre la Torah et les mitzvot. Et il va lui apprendre à lire jusqu'au moment où il va lui faire comprendre c'est quoi Kaddish, il va prononcer le Kaddish. Et quand il va prononcer le Kaddish, le bonhomme en question, il va venir en rêve, il va apparaître à Rabbi Akiva, il va lui dire, ah, tu m'as sauvé. Encore une fois, parce que la puissance du Kaddish, elle est terrible, donc nous avons dit qu'il est dur en arrière-main pour chasser l'influence des Touma. Parce que eux, les forces de la Touma, ils connaissent l'araméen de manière parfaite. Donc quand on prononce le Kaddish en araméen, on prononce dans leur langage, nous dit le Zohar. Comme on prononce dans leur langage, alors tout de suite ils comprennent la puissance, ils se sauvent. Les Kohot Atouma, ils ne supportent pas la puissance de la Kdusha. Quand la puissance de la Kdusha, elle est diffusée, dite avec force et intensité, ils se sauvent, ils nous laissent tranquilles. Ça, c'est le sens du Kaddish. Et ça, c'est une leçon pour tout. Pour toutes pour chasser toutes les accusations. C'est pour ça que Lavan, il a poursuivi Yaakov. Et ils font une alliance. Une étonnante alliance. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je voulais te tuer, Dieu, il m'a empêché. Il dit, on fait une alliance. C'est quoi l'alliance? Il dit, ils ont érigé une monticule, qu'ils ont appelée Galaed. Et ils ont dit, toi, tu restes chez toi, et moi, je reste chez moi. Ils nous disent, les Mkoubalim, ils disent, c'est quoi cette alliance? Généralement, en alliance, on est liés, toi, tu viens chez moi, et moi, je vais chez toi. Ils disent, non, ça, c'est une alliance spéciale. Lavan, c'est la Touma. Yaakov, c'est la Kdusha. Ils ont fait une alliance. Lavan, il peut pas supporter que Yaakov, il le regarde. C'est ça, ce que Akashbukhou, il a dévoilé. Donc, il a dit, toi, tu restes chez toi. Voilà la limite que Lavan, il peut pas dépasser. Et voici le domaine réservé à Yaakov. Lavan, il doit pas rentrer dans le domaine. Parce que si Yaakov, il regarde Lavan, il disparaît. Il meurt. Il se sauve. Il a pas d'existence. On dit en français, un peu de lumière chasse l'obscurité. C'est exactement ça. Les obscurités, c'est la Touma. Et la lumière, c'est quand on prononce le Kaddish avec force, Kavana, intention, correctement, mot à mot, dans le sens de glorifier le nom tout puissant et extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, on lui rend son monde, la Touma, elle disparaît totalement. Et l'âme du défunt, elle s'élève et elle s'élève et elle s'élève. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.